Un caillou dans la chaussure, bonjour. C'est notre huitième émission aujourd'hui avec au sommaire, en dernière partie d'émission, avec Florence Michel à propos d'un spectacle des planteurs de perles. Bonjour Florence.
Bonjour, oui, il s'agit d'un opéra cette fois-ci pour chœur et orchestre d'enfants. Une œuvre écrite par Marianne Sunner et mise en scène par Brigitte Sirla.
Merci, à tout à l'heure. Le Roi et l'Oiseau, le film programmé par Photokino le mercredi 4 juin au cinéma Les Variétés, c'est l'essentiel de la rubrique du petit cinéma, pardon, avec Nathalie Guimard. Bonjour.
Bonjour, et oui, Le Roi et l'Oiseau, le vrai, le véridique Roi et l'Oiseau, ou l'histoire d'un vilain coco, alias le roi Charles V et 3 fonds 8 et 8 fonds 16, et d'un oiseau gouailleur qui ose le narguer.
Et tout de suite, une interview de Katsumi Komagata, venue à Martigues pendant l'Odyssée des lecteurs la semaine dernière. Une rencontre organisée par l'Association des bibliothécaires de France. Une rencontre donc avec Nathalie, avec Katsumi Komagata, un homme sensible, souriant et généreux et rayonnant de tendresse. Une rencontre donc avec Katsumi Komagata, c'est un événement parce qu'il vit au Japon, où il est né en 1953 et il est graphiste et designer. Il exerce aussi le métier d'éditeur. Sa maison d'édition s'appelle One Stroke. Mais c'est surtout un artiste que nous avons rencontré, un artiste qui invite les enfants à entrer de plein pied dans le monde par l'expérience de l'art, de la création artistique. Katsumi Komagata crée, invente des livres-objets, des livres qui se lisent d'abord avec les yeux et les doigts. Et pour cause, ses premiers sont nés avec la naissance de sa fille, sous forme de fiche, en 1990. Des livres-objets qui rendent un fier hommage aux formes et aux couleurs, en jouant avec les reliefs, les découpes, les notions de plein avec des formes évidées, laissant passer la lumière, les ombres avec précision et finesse. Et par conséquent, ces livres-là sont truffés de multiples surprises. Des livres avec une grande économie de mots, qui parlent avec le langage graphique, parce que toucher, c'est peut-être déjà lire. Alors Nathalie, j'avais envie de te donner la parole, car Katsumi Komagata, c'est toi qui as attiré mon attention sur l'œuvre et le travail de ce grand artiste. Tu l'as déjà rencontré et bon, on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Dans l'entretien, on va plus particulièrement entendre un texte de son dernier ouvrage, Le Petit Arbre. Mais toi, est-ce qu'il y a un livre que tu as partagé avec ton enfant, par exemple, ou avec d'autres enfants dans le cadre d'ateliers? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de nous faire partager?
Il y a beaucoup de livres, tu le sais. Hein. Beaucoup de ces livres, on a envie de les faire partager. Je voulais juste peut-être parler du premier qui m'a fait le découvrir, qui s'appelle « Ça y est, je vais naître », qui, sous la forme d'images surtout, enfin grâce aux images et à la beauté de papier, puisque c'est surtout la spécificité de ces livres, ces magnifiques papiers japonais. Il édite tout au Japon, même les ouvrages en français sont édités là-bas. Et donc « Ça y est, je vais naître », c'est voilà, la naissance, l'histoire de la fécondation. Et c'est pas rien, parce que pour raconter ça à des enfants, c'est un ouvrage qui le permet merveilleusement et qui se finit sur un cordon ombilical de papier qui relie, qui est la sortie, l'ouverture au monde, qui je trouve une très belle image par ce petit trou là du livre, de la page, et aussi encore un lien à la mer. Enfin, c'est des sujets qui, à mon avis, résonnent partout dans l'œuvre de Komagata.
Alors je crois que déjà avec cet exemple-là, on rentre de plein pied sur le thème principal. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai posé la première question. Si on devait résumer son travail et la spécificité de son travail, il me semble qu'il est ancré dans l'expérience humaine. Donc là, tu viens de parler de la naissance. J'ai dit en introduction aussi que ses premiers livres sont nés parce que sa fille est née. Et il le dit aussi dans l'entretien, c'est-à-dire qu'il a voulu se signaler aux yeux de sa fille en tant que père. Et non pas s'interférer entre la relation entre la mère et l'enfant, mais en tout cas, il a voulu exister à ses yeux et il s'y est pris donc avec toutes ses compétences et sa sensibilité. Et donc ce livre-là qui parle de la naissance et d'autres livres comme celui autour des feuilles. Alors je l'ai pas sous les yeux, du coup je me rappelle plus la feuille aussi ou pareil. Il parle aussi de la naissance d'une feuille et de la mort d'une feuille. Donc il s'appelle Feuille, voilà, tout simplement. Et donc en fait, il est très sensible en fait au cycle de vie et avec voilà, il y a un début, il y a une fin et plus particulièrement, j'avais envie d'attirer votre attention sur son dernier livre paru, donc il a édité dans sa maison d'édition One Stroke et qui s'appelle Le Petit Arbre. Alors je vous le décris. J'espère que vous pourrez le voir et le toucher. Donc au creux de la pliure du livre, on découvre un petit losange blanc. Il se déploie en relief dès lors qu'on ouvre le livre, c'est une graine. Puis, lorsqu'on tourne les pages, un arbre grandit et l'arbre se transforme au fil des saisons. Pour en revenir à la première page, c'est donc une boucle, un cycle de vie, un éternel recommencement, expérience universelle par excellence. Et la beauté de ces événements est soulignée par la lenteur, par l'ombre omniprésente, le temps, le rapport au temps, insufflé par la délicatesse avec laquelle on est obligé de manipuler le livre, de la poésie qui invite au respect. On s'incline devant ce livre étonnant de simplicité et d'une force durable, époustouflant d'humanité. Vous allez entendre le texte de ce livre-là, qui est donc traduit, de ce livre Un petit arbre, et c'est Colleen Irwin, la traductrice de Katsumi Komagata, qui nous la livre. Et cette lecture sera suivie donc d'une courte interview. À tout à l'heure.
Personne ne remarque une si petite présence, immobile, là, dans la neige. Elle grandit un peu. Le printemps arrive et lentement les branches s'allongent. Les feuilles apparaissent une à une. Les nombreuses feuilles de l'été absorbent la lumière du soleil. Les branches se balancent avec le vent et l'ombre de l'arbre s'agrandit. La lumière s'adoucit, les feuilles deviennent jaunes, puis rouges. C'est déjà l'automne. La famille des oiseaux est occupée à préparer son départ du nid. Les nuages couvrent le ciel. Le vent souffle fort, cassant presque les branches. Les trombes d'eau emplissent la nuit. Immobile, là, dans le noir. L'hiver arrive et le vent vole les restes de la chaleur estivale. Des printemps plus tard, de nombreux jours passés. Il devient assez grand pour regarder tout autour de lui. Quand au début il était petit, et tout était grand. Le corbeau s'installe dans le nid laissé par le corbeau l'an passé. Son point de vue ne cesse de changer. Les illuminations éclairent la nuit. L'homme qui a perdu un ami dépose une fleur. On n'y peut rien. Immobile. Là. Il n'y a pas de présence. Les enfants qui venaient attraper des cigales l'été dernier reviennent le trouver. Les vieilles personnes venaient s'y reposer, mais l'arbre n'est plus là. Il restera dans nos mémoires. La graine a été déposée dans un lieu inconnu. Il est certain qu'il existera pour quelqu'un, bien que personne ne remarque une si petite présence au début.
Merci Colleen, qui est donc la traductrice de Katsumi Komagata que nous avons l'honneur de rencontrer aujourd'hui au cours de l'Odyssée des lecteurs à Martigues. Alors, curieuse introduction puisqu'on a commencé par un texte, parce que Katsumi Komagata, votre particularité en tant qu'artiste et éditeur, puisque vous êtes éditeur aussi au Japon, sont essentiellement des livres visuels. Alors, pouvez-vous nous parler plus particulièrement de ce dernier livre, Petit Arbre, que vous venez d'éditer ? Et pourquoi vous avez réalisé ce livre-là ?
Unfortunately, I lost my uncle this beginning of year.
Malheureusement, j'ai perdu mon oncle cette année, au début de l'année.
And people realize the presence loss, then it becomes turns out very valuable.
Et en fait, les gens se rendent compte de l'importance de la présence de quelqu'un seulement quand cette personne a disparu, malheureusement.
So I came up with this little tree to honor for my uncle.
Alors j'ai eu l'idée de ce livre pour honorer mon oncle.
And also, we face to now serious problem of environmental.
Et maintenant aussi, on est confronté à beaucoup de problèmes environnementaux.
So we really have to appreciate nature, even though the small presence.
Donc, il est très important que nous apprécions la nature, même dans ses plus petites expressions, même des petites présences.
This way, we may change something to
realize the importance.
Okay. This way, we can realize the importance.
Ainsi, on peut se rendre compte de l'importance de la nature.
Okay. De la nature et de la vie des hommes.
Of nature and of the human being.
Right, both.
Bien sûr, okay. Les deux.
Ensemble.
Okay.
C'est ce qui me touche dans votre travail, c'est que vos livres sont nés d'expériences humaines. Et la toute première, c'est lorsque vous avez été pour la première fois papa.
First one was when you had a baby, mm-hmm. When you became a father.
Well, I didn't have chance to live with my father when I was little.
Oui, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de vivre avec mon père lorsque j'étais petit.
So when I had my child at first, I didn't know how to have communicate with her.
Alors quand j'ai eu mon enfant, au début, je ne savais pas comment communiquer avec elle.
I tried to find some books at the bookstore, but most of books writing at the mother's side.
Donc j'ai essayé de trouver des livres à la librairie, mais la plupart des livres étaient écrits du point de vue de la mère.
And then I realized that there is some kind of distance in between father and child, so that we have to put something to share in between this distance.
Et j'ai réalisé qu'il y avait une certaine distance entre le père et l'enfant, et que nous avions besoin de mettre quelque chose entre cette distance.
So it turns out communication means to share something for us.
Et donc en fait, la communication, ça signifie partager quelque chose.
So I made a lot of cards to share, to show with my daughter.
Alors j'ai fait beaucoup de cartes à partager avec ma fille.
And some of them, she responded to the card and have fun.
Elle a réagi à certaines de ces cartes et s'est amusée.
Some of them, she didn't respond at all.
Il y en a d'autres auxquelles elle n'a pas du tout réagi.
So I collect the card she responded. Then it turned out the title of Little Eyes.
Alors j'ai collecté, rassemblé toutes les cartes auxquelles elle réagissait, ce qui a donné le titre de la série Little Eyes.
D'accord. Donc en même temps que vous créez, votre enfant vous a servi aussi de premier lecteur de vos livres. Donc c'était déjà une histoire de partage et d'interaction entre vous et votre enfant qui ne parlait pas, qui voyait à peine. Vous doutiez qu'elle puisse voir déjà ce que vous aviez créé.
She was just a baby and then she didn't understand any word though.
Oui, elle était vraiment, c'était juste un bébé, un nourrisson, et elle ne comprenait pas les mots.
People think like a communication really needs a word. I don't think it's true.
Les gens pensent souvent que la communication a besoin des mots, et je ne pense pas que cela soit vrai.
Communication means to share what I said before, and also if we put some kind of visual contact, then children can imagine their own way to find their own answer.
les gens pensent qu'il faut des mots. Et en fait, vous, oui, et vous, vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous pensez qu'il y a une expérience visuelle à avoir au préalable. Oui, je trouve cette conception pédagogique très stimulante et très intéressante parce que vous proposez d'imaginer et de trouver nos propres réponses en tant que lecteur. Et ça, c'est très, je trouve ça très, très fort. C'est exactement, Nathalie vient compléter. Dès le plus jeune âge, on peut entrer dans les livres sans les mots et on est déjà happé par beaucoup de sens.
So very early on, because you work with visual contact very early on, you can, children can find their own answer because we're just taken by the visual communication and not necessarily with words.
Ainsi que des réponses tactiles, puisque ce sont des livres qu'on peut toucher, des livres en différentes matières qu'on peut toucher, caresser, manipuler, des livres fragiles, ça aussi, ça vient à contre-courant des idées reçues.
And there are also fragile books,
oui.
Which is not usually the case for children's books.
Right. Well, because in general, we adults give such a strong things for children because everyone thinks children are very treat roughly the things.
En général, on donne des matériaux très solides aux enfants parce qu'on croit que les enfants sont très brusques avec les choses.
It's true, but then on the other hand, we have to make them learn how to treat the things very gently.
Cela est vrai, mais je pense que d'un autre côté, il est important que les enfants apprennent à manipuler les choses délicatement.
So I think children have to break it. Then they will learn the thing is going to be broken.
Alors je pense que les enfants doivent faire l'expérience de casser les choses pour qu'ensuite ils sachent que les choses sont cassables.
But if we adapt, let it be like that, then children will know, okay, we can leave it as well.
Mais si l'adulte laisse faire et laisse l'objet casser, alors l'enfant pensera qu'on peut juste le laisser comme ça.
But if we fix it by taping or gluing, and then children will know the thing is very important and treat gently.
Mais si on le répare avec du scotch ou de la colle, alors l'enfant comprendra que la chose est très importante et qu'il faut la manipuler avec délicatesse.
And then one more thing that I would like to say, tactile is very small things, very sensitive.
La dernière chose que je voudrais dire, c'est que le tactile, en fait, est très sensible.
So that the developing like tactile for children become very sensitive, I think.
Donc je pense que de développer le tactile chez les enfants, c'est vraiment développer leur sensibilité.
So I think children really need to touch many things and then feel many ways.
Je pense qu'il est très important pour les enfants qu'ils touchent beaucoup de choses et afin qu'ils ressentent aussi beaucoup de choses.
Oui, Nathalie, tu veux poser une question ?
Non, il y a quelque chose aussi que je trouve très intéressant dans votre vision, dans ce que vous avez envie de faire passer, c'est comment faire confiance, comment se faire confiance, alors avec votre fille, mais aussi entre nous, entre adultes. Et de céder pour cela de la communication visuelle.
Communication helps you trust the other person.
Well, to design is to solve the problem, I think. This is the main thing.
Je pense que faire du design, c'est résoudre un problème. Ça, c'est une idée essentielle.
Means we really have to see the reality, what's happening, what's wrong with it.
Et pour cela, on doit vraiment être confronté à la réalité pour comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas.
It's not come up just, you know, by ourselves. We really have to stay the reality and then we try to solve the problem in communication.
Ça ne vient pas comme ça, on doit vraiment être ancré dans la réalité, confronté à la réalité afin que la communication nous serve de réponse
So this is really needed to be experienced to do this kind of things, making communication.
Pour être dans la communication, on a vraiment besoin de cette expérience.
Yes.
Alors pour terminer, Katsumi Komagata, on a l'occasion de temps en temps de vous voir en France et de vous rencontrer, donc essentiellement à travers l'organisation d'ateliers avec des enfants, mais aussi avec des adultes.
Yes, I do workshop. Yes,
with children and with adults.
Yeah, I do now workshop for not only children but also adults. If we made like too childish, adult cannot stay. But if we make too difficult for children, children run away. So we have to set up. We have to find in between, not too difficult, not too easy, not too childish. So the thing we really have to consider when we do workshop at this point.
Oui, je fais des ateliers pour les enfants et les adultes. Donc, si on fait des ateliers trop enfantins, alors les adultes ne seront pas intéressés. Et si on fait quelque chose de trop directif, les enfants vont s'enfuir. Donc, il faut vraiment que l'on trouve quelque chose d'intermédiaire entre les deux.
In many cases, I had actually trouble with the teachers.
Dans beaucoup de cas, j'ai des soucis avec les enseignants.
Because teachers always try to manage the children.
Parce que les enseignants essayent de diriger les enfants.
Of course, this is their job. But at our workshop, I want the children become free.
Donc bien sûr, ça c'est normal, c'est leur travail. Mais lors de nos ateliers, j'ai envie que les enfants soient libres.
Of course, at the beginning, children have to know the rule about the workshop.
Bien sûr, au départ, les enfants doivent connaître la règle et comprendre la règle de l'atelier.
As long as they can understand the rule or they follow to the rule, they become free.
Et à partir du moment où ils comprennent la règle et qu'ils la suivent, ils peuvent devenir libres, ils peuvent être libres.
But still, in this way, teachers try to manage and control their students.
Mais souvent, même comme cela, l'enseignant essaye de diriger et de contrôler les étudiants.
Like say do this or say do that way, you know, things like that. So I ask to the teacher, please do busy, be busy, do your own work.
Donc les enseignants disent souvent fais comme ceci, fais comme cela. Donc je demande à l'enseignant restez occupé et faites votre création aussi, travaillez.
And then final stage we have for presentation and then last moment the teacher's work presented.
Et la dernière étape de l'atelier, c'est la présentation. Et donc au dernier moment, c'est la présentation de l'enseignant. De son travail.
Teachers really get applaud from children and then they become really happy.
Et les enseignants sont toujours très applaudis par tous leurs élèves et sont très contents.
Well, same thing happened to the fathers. At the beginning, they become really their face is really seriously.
C'est la même chose qui se passe avec les papas qui participent. Donc au début, leur visage est très sévère.
And then I ask them also, please participate.
Puis je leur demande aussi de participer.
And then when their work presented in the audience, people get applaud, right?
Et au moment de la présentation, les gens dans le public applaudissent tous.
And then their daughter or son said, oh, father, pap, great.
Et son fils ou sa fille dit super papa.
So it turns out to make them happy.
Ce qui les rend très heureux, bien sûr.
Yeah, so I really would like to have fun with the people.
Donc j'ai vraiment envie de m'amuser avec les gens.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on ressent dans votre, la manière dont vous avez décrit cet atelier. En fait, vous œuvrez pour faire tomber les barrières entre les âges, les barrières pour s'exprimer, laisser libre cours à son imagination et à sa propre... C'est une invitation à la création. Je vous remercie beaucoup, Katsumi. Au revoir. Merci.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
Qu'est-ce qu'on attend de nous? Tu parles d'une question. Quand on paraît si mou devant la conviction que c'est bien d'être un homme. Qu'est-ce qu'on attend d'un homme? Toujours un peu plus sourd à ce qui tient en éveil et se lève tous les jours oublieux de la veille. Qu'est-ce qu'on attend de mieux? Au bar d'un TGV, sur un quai de banlieue, avant la mise à feu d'une grève ferroviaire. La vie est un cadran, un rond de camembert, à 99% de matière ordinaire. Il y a des roses, il y a des ronces, il y a du piquant dans la réponse. Qu'est-ce qu'on attend de nous? C'est qui nous, c'est qui on? À quel âge on s'en fout de toutes ces questions qui nous prennent le cigare? Un jour on en a marre, on préfère le silence. C'est l'apport du hasard qui choisit le bon sens et vient fermer les stores. En attendant la mort, on va se faire l'amour qui nous donne un peu plus, mais on en fait le tour en trouvant des astuces. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'elle attend pour dire qu'il faut bien faire un choix dans la joie du moins pire? Il y a des roses, il y a des roses, il y a du piquant dans la réponse. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qui rue dans les brancards, m'en prenant à la loi, la morale aux aboires, mais d'une guitare. Qu'est-ce que j'attends au fond? Cassandre en promotion, dénonçant les appels à la résignation qui font baisser les ailes. Dans cette catégorie, il faut être un champion. Plus vous faites du bruit, plus vous avez raison, on vous ouvre les portes. La foule vous transporte, elle vous dit bravo. Soyez notre gourou, c'est ce qu'on attend de vous. Il y a des roses, il y a des roses, il y a du piquant dans la réponse.
Alors, suite à cette interview avec Katsumi Komagata, je voulais signaler aussi l'apparition du dernier numéro de la revue Le MOOC. MOOC, c'est une contraction entre magazine et book, aux éditions autrement. Et ce numéro-là est consacré aux artistes qui créent pour les enfants des objets livres à imaginer. Et c'est donc le titre de ce numéro. Et cette parution souligne le travail en ce sens, et ce depuis 20 ans, de la toute petite maison d'édition Les Trois Ours. C'est donc une date anniversaire pour faire connaître encore plus et faire circuler les œuvres des artistes défendu par les trois ours comme Munari, Katsumi Komagata, mais aussi Tana Oban. D'ailleurs, nous avons eu une interview de Geneviève Chatouillot, la présidente des trois ours, à cette antenne, ou bien encore un artiste contemporain comme Paul Cox. Voilà, c'est une très belle revue, je voulais le signaler, qui complète peut-être ce que nous avons dit, ce que nous avons voulu vous faire partager aujourd'hui autour de Katsumi Komagata. Voilà, la rubrique livre, c'est déjà terminé. Donc, Nathalie, on enchaîne du côté du petit cinéma. Et...
Oui, je voulais en profiter pour faire le lien entre le livre et le cinéma, parce que j'aime bien faire ce genre de lien. Juste dire que Katsumi Komagata, lorsque je l'avais rencontré au Japon en 2005, il m'avait parlé d'un projet, je pense, qui l'anime toujours en ce moment, enfin, qui l'anime lui, je veux dire, dans ses projets. C'est de travailler sur le design de couloirs d'hôpitaux pour enfants, en fait, pour les rendre plus chaleureux, plus ludiques. Et notamment, ce qui l'intéressait, c'était l'illusion d'optique à travers ces formes géométriques graphiques qu'il imaginait sur les murs. Et donc, je trouve là un formidable lien avec le cinéma, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais le cinéma, c'est que de l'illusion, c'est pas vrai. C'est juste notre petit œil qui a la persistance rétinienne, avec ce petit truc technique de notre œil, qui nous permet de ne pas percevoir le changement d'image au cinéma grâce à l'obturateur qui se ferme et qui escamote l'image précédente. Voilà, donc c'était un petit lien facile. Vers le petit cinéma, à tout de suite.
Mmh. Le petit cinéma.
Mercredi 4 juin au Petit Cinéma, c'est à vos variétés, vous savez, tous les premiers mercredis du mois à 10h. Il ne faudra pas manquer, s'il vous plaît, Le Roi et l'Oiseau, le chef-d'œuvre de Grimaud et Prévert, sorti en 1980, qui a inspiré beaucoup, beaucoup d'autres réalisateurs de films d'animation.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À l'époque heureuse où j'avais bâti mon nid tout en haut du grand palais de l'immense royaume de Tachycardie. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et trois fonds 8 et 8 fonds 16 de Tachycardie. Ce n'était pas un bon roi. Il détestait tout le monde, et tout le monde dans le pays le détestait aussi. La solitude et la chasse étaient ses passe-temps favoris. Enfin, pour tout vous dire, nous n'étions pas amis.
Alors, ce qu'il faudrait peut-être que je vous dise, c'est que Le Roi et l'Oiseau est d'abord né en 1946, mais pas sous ce titre-là. Intitulé tout d'abord La Bergère et le Ramoneur, c'était un projet de Jacques Prévert qu'il avait donc suggéré à Paul Grimaud, dont il était ami, et un projet d'adaptation du conte d'Andersen, La Bergère et le Ramoneur, vous savez. Et en fait, le film est donc sorti sous ce titre, La Bergère et le Ramoneur, en 1953, mais pas avec vraiment la satisfaction, même carrément pas la satisfaction des auteurs, puisque le producteur a sorti le film sans leur aval. Et donc, Grimaud et Prévert, pendant 30 ans, c'est pas rien, se sont battus pour racheter leur film, racheter les droits de ce projet, pour le remanier, et pour enfin en sortir une version avec un nouveau titre, celui du Roi et de l'Oiseau, en 1980. Mais en 1980, c'était 3 ans après la mort de Jacques Prévert. Et le jour de la projection, la première projection de ce magnifique film, eh bien je précise juste que Grimaud avait gardé à côté de lui une place vide en hommage à son ami disparu. Voilà un petit peu l'histoire du film. Parce que dans le conte La Bergère et le Ramoneur, donc le projet, Andersen racontait simplement une escapade nocturne dans le vaste monde de deux poupées de porcelaine qui s'aiment, une bergère et un ramoneur donc, et dont les amours sont contrariés. Mais au petit matin, la bergère trouvait le monde un petit peu trop grand, donc ils sont rentrés bien sagement chez eux. Mais par contre, le projet adapté par Grimaud et Prévert était vraiment transporté. Et puis surtout, d'une histoire bien sage, ils ont tiré un film poétique et beaucoup plus subversif. Un hommage à la vie, à la liberté, à la fantaisie. Et puis, un hommage aussi à la révolte des opprimés contre les tyrans. Voilà. Un petit extrait encore.
Assassin !
Parfaitement, je le dis et je le maintiens. Ah, ça, ça. Et j'ajoute même, tu es un vilain coco. Parfaitement, un vilain coco. Enfin, voyons à quoi ça ressemble. Des choses pareilles tirées sur le pauvre monde. Et on appelle ça sa majesté.
Misérable, me parler sur ce ton.
Non mais, je vous le demande, qui est-ce qui m'a fichu un oiseau pareil ?
Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, famille royale. Prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, képi, trompette, brosse à luire et tambour, gendarmerie, lavatorie, manu militari, grandes imprimeries royales, lettres de cachet, taxes et impôts, contraintes par corps, oubliettes et catacombes, passementeries et casse-tête, ombrelles et parapluies, casinos, tirs aux pigeons, musée de l'armée, jardin des plantes, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, salon de coiffure du roi, pédicure du roi, bain de vapeur du roi, grandes eaux lumineuses du roi, musique de chambre du roi, trompette de la garde du roi.
Un caillou dans la chaussure.
Les personnages et les décors participent eux aussi, par leur graphisme, leur couleur, à la poésie du film. Les espions, par exemple, sont couleur de muraille. Les policiers, un peu clichés, portent des melons, sont balourds. Le roi est très très laid, ses courtisans aussi. Et par bonheur, tous ces mauvais ou ces laids là, se disparaissent par des trappes ouvertes par leur roi. Ça fait penser à Ubu Roi, ça. Au père Ubu, pardon. Et l'imagination, donc, se donne libre cours dans beaucoup de dessins un peu gadgets, comme cet ascenseur démentiel qui fait je ne sais plus combien d'étages, mais enfin à peu près 500, je crois. On va entendre tout à l'heure un extrait qui nous permettra de...
296.
Ah bon, exactement. J'exagère. On est à l'époque des tours sans fin, donc j'exagère à la Marseillaise. Enfin voilà, donc il y a des machines incroyables dans ce film. Et puis bah, peut-être aussi rappeler qu'il y a déjà dans ce film, en 1980, un robot assez exceptionnel, symbole aussi de l'intelligence, de la force des hommes, du pouvoir déjà. Mais un robot qui finalement à la fin devient défenseur des opprimés lui aussi et qui était inventé avant Goldorak quand même. Donc c'était avant-gardiste. Et parmi les personnages, je voulais juste, avant qu'on écoute un extrait, parler un petit peu de ce qui inspire les personnages. Parce qu'on n'y pense pas toujours hein, quand on les découvre, mais il y a toujours quelque chose derrière. Alors c'est la voix parfois qui fait le personnage, mais pour le dessiner aussi, on peut s'inspirer de vrais acteurs. Et Grimaud aussi l'a souvent dit, ça, qu'il s'inspirait, il avait besoin pour les rendre réels, réalistes, de s'inspirer de personnages qu'il pouvait imaginer. Donc par exemple, l'oiseau s'était clairement inspiré de Pierre Brasseur dans Les Enfants du Paradis.
Curieux.
Ouais. Vous voyez le personnage de Pierre Brasseur dans Les Enfants du Paradis. Et donc on va entendre la chanson, puis je pense que vous reconnaîtrez à sa gouaille. Bon, ne lui en voulez pas, il chante vraiment très faux.
Dormez, dormez, petits oiseaux. Petits oiseaux chéris, petits oiseaux chéris. Papa est là qui veille, papa qui veille au grain. Dormez, petite merveille, il fera jour demain. Dormez, dormez, petits oiseaux chéris, petits oiseaux chéris.
Et au tout dernier étage de cet ascenseur infini, et bien dans les appartements secrets du roi, alors que le roi n'y est pas, les œuvres d'art prennent vie, les personnages des tableaux sortent des cadres et les vieilles sculptures de pierre se décollent de leur socle. Et là, sortent de leurs tableaux respectifs, le petit ramoneur de rien du tout, la petite bergère au teint de porcelaine, et le portrait du roi tout frais, fraîchement peint. Bien sûr, c'est pas le roi qui susurre, c'est plutôt le petit ramoneur et la bergère qui se susurrent des mots doux. Et le roi va bientôt intervenir, enfin, le double du roi.
On peut pas aimer tout le monde.
Surtout qu'on sait pas qui c'est.
Et toi, qui aimes-tu ?
Moi, je n'aime que toi. Et toi ?
Moi, c'est pareil, je n'aime que toi aussi. Tu es le plus gentil ramoneur que j'ai jamais connu.
Tu es la plus jolie bergère que j'ai jamais vue.
Tu en as vu beaucoup d'autres ?
Non, je n'en ai même pas rêvé.
Croyez-en, ma vieille expérience. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. D'abord, vous n'avez pas la même couleur. Une bergère et un ramoneur. Mais pas question, pas question.
Donc, je voulais juste préciser aussi que la musique est de Wojciech Kilar. Kilar, je suis sûre du nom, le prénom un petit peu moins. Et donc, vous pourrez découvrir ce film le 4 juin et le samedi qui suit aux variétés. Comme d'habitude, vous le savez, rediffusion le week-end.
Children, children.
Et le 4 juin, après le petit cinéma, après à midi, Marie-Dominique.
Avec Sirène et Midinette.
Dont tu avais parlé la dernière fois.
Oui, exact.
Eh bien, je vous propose d'aller à 17h à Cours y Vite, une programmation de court-métrage organisée par l'association Tilt et plus précisément programmée par le club Ciné-Tilt. C'est un club de programmation de jeunes donc spectateurs, enfin d'enfants, et qui ont programmé plusieurs films, courts-métrages. C'est la 5e édition, c'est à 17h, et c'est au rendez-vous des quais, appelé aussi le CRDP, salle de cinéma du CRDP, et c'est donc 31 boulevard d'Athènes.
Donc un mercredi bien rempli, le fameux mercredi du 4 juin. Alors, pour terminer cette émission, donc s'il est un art que nous pratiquons tous spontanément et ce dès l'enfance, c'est le chant. Ça c'est pour faire le lien avec le contenu de ta rubrique, Florence, car il est à Marseille une chorale qui s'appelle La Troupe Chantante, menée par Marianne Suner, dont j'avais connaissance. Mais tu as rencontré Florence Brigitte Sirla et Marianne Suner à ce sujet pour un spectacle, Les Planteurs de Perles.
Voilà, il s'agit de musique donc aujourd'hui. Ces Planteurs de Perles seront sur la scène les 6 et 7 juin, donc le week-end qui suivra ce mercredi bien chargé, à la salle de la Cartonnerie et à la Friche La Belle de Mai. C'est un petit événement en matière musicale, car il y a sur scène 63 enfants musiciens, deux chœurs et un orchestre. Deux chœurs, donc l'un issu de la troupe chantante, qui répète à longueur d'année, donc ici à la Friche, une fois par semaine, dirigé donc par Marianne Suner. Et un deuxième chœur qui intervient dans cet opéra, qui est issu d'une classe de CM1 de la Busserine, avec une instite très très motivée qui s'est beaucoup impliquée dans ce projet. Et enfin donc un orchestre issu lui du conservatoire. Ce sont des enfants un petit peu plus âgés eux. L'ensemble, ils ont entre 7 et 13 ans globalement. Ça peut aller jusqu'à 20 ans pour les musiciens. Donc, il s'agit d'un opéra qui a été écrit par Marianne Sunner et qui parle d'un sujet qui est assez largement partagé, puisqu'il s'agit de la jalousie. Et de la jalousie en fratrie, entre frères et sœurs. Donc c'est un plongeon dans l'univers de l'enfance, donc au travers du prisme de la jalousie d'un petit Benjamin qui a imaginé la naissance de sa sœur. Et quand elle arrive, ça se passe pas du tout comme il avait envie que ça se passe, globalement. Et il se persuade, Marianne Sunner en reparlera tout à l'heure dans l'entretien, il se persuade que c'est pas celle-là, la sœur. Il y a dû avoir une erreur quelque part. Et lui, il va aller chercher d'où provient l'erreur, mais en tout cas, c'est pas ça, quoi. Donc, cet opéra a vu le jour à Marseille sur, enfin, avec déjà plusieurs expériences en amont pour Marianne Sunner en région parisienne. C'est pas pour elle une nouveauté que de faire chanter les enfants. Elle avait fait chanter les enfants à Aubervilliers, à Ménilmontant, et là, donc c'est ce chœur qui va s'exprimer. Apparemment de façon très vivante, très contemporaine, a été également mis en scène par Brigitte Sirla. Brigitte Sirla qui dirige les voix polyphoniques. Et donc c'est ensemble qu'elles ont répondu à quelques-unes de mes questions et je vous propose de les écouter tout de suite. Bonjour Marianne Sunner et Brigitte Sirla, vous êtes là toutes les deux pour parler du projet qui maintenant va bientôt voir le jour sur scène Planteur de Perles, qui est un opéra pour chœur et orchestre. Marianne, vous êtes compositrice de cet opéra, vous pouvez nous dire comment le projet est arrivé et ce qui vous a motivé à créer cette pièce.
Il y a assez peu de répertoire pour voix d'enfant. Et l'idée, donc, c'était de créer, de travailler à étoffer ce répertoire et en même temps d'en faire un spectacle complet, c'est-à-dire en fait que les enfants apprennent autant à bouger qu'à chanter, qu'à prendre force sur le plateau, que les enfants se retrouvent dans une situation artistique complète. Et donc voilà, c'était un peu ça le moteur de l'écriture au départ. Et puis aussi parce que les voix d'enfance, c'est un matériau musical qui est d'une très belle pureté, d'une très belle ligne, et que j'avais vraiment envie d'écrire pour voix d'enfant.
D'accord, donc ces enfants-là, ce sont des enfants à la fois du chœur de la troupe chantante qui répète à longueur d'année, donc depuis 2 ans, vous disiez, à la Friche La Belle de Mai. Une autre classe, une classe de la Busserine et des instrumentistes du conservatoire, c'est ça. Donc en tout, ils sont 63 sur scène. Vous intervenez sur scène aussi ?
Et oui, il fallait un chef d'orchestre, de chœur et d'orchestre pour diriger tout ça. Et donc voilà, c'est moi qui vais endosser le costume.
Vous, Brigitte, vous êtes vous dirigez les voix polyphoniques, et par ailleurs, vous êtes occupée de la mise en scène des Planteurs de Perles. Vous pouvez, nous expliquer cette matière donc de pureté, comment vous l'avez mise en scène et dans quelle perspective ?
La pureté, c'est Marianne qui dit ça. Donc elle, c'est elle qui a écrit. Moi, j'ai d'abord, comme j'avais déjà monté un opéra d'enfants en 2001, la Cantate à pied, avec 95 enfants. Donc 63, c'était un peu moins, ça devait être plus facile. L'idée, là, la partition a été écrite. Donc pour la mise en scène, il faut partir automatiquement de la musique. La musique dans un opéra, etc., on part automatiquement de la musique, puisque c'est ça qui va donner la dynamique, le rythme des scènes et le choix, les choix scéniques sont déjà écrits dans la musique, dans quelque part. Donc moi, je suis partie de la musique et l'idée de l'orchestration pour orchestre et chœur, ça fait que je suis partie systématiquement du groupe, de la notion de groupe et de collectif, et du fait que les solistes, par exemple, sont issus du chœur. Donc ça ramène un peu à la notion du chœur antique. Donc en fait, dans ce spectacle-là, pour moi, le chœur est un personnage, au même titre que les solistes. Donc pour ce faire, j'ai travaillé avec une chorégraphe pour travailler justement tout ce qui est le mouvement du chœur sur scène comme un personnage, comment un groupe peut se disloquer, se recomposer. Donc il y a beaucoup de travail sur l'espace qui est fait au départ, et c'est surtout là-dessus que je voulais faire travailler les enfants. Donc on a travaillé avec Bénédicte Raffin, avec qui j'avais déjà travaillé sur la cantate à pied là-dessus. Donc on a travaillé beaucoup plus sur... l'écriture de Marianne musicale est très graphique. Et nous, on a travaillé sur une écriture scénique qui est graphique, en fait. C'est-à-dire que quand je travaille avec Bénédicte, elle dessine, on dessine sur un cahier les mouvements qui vont exister sur scène. Exactement comme Marianne, elle dessine sur du papier, pas forcément que sur des portées, la musique qui va être chantée. On travaille aussi beaucoup à partir de leur imaginaire. À un moment donné, on crée une forêt, et ça a été très simple avec eux de leur dire, il n'y a pas de décor de forêt, mais par contre, vous, les arbres, vous les voyez, et vous allez les mesurer. Avec votre corps, vous allez me montrer si vous êtes en train de regarder un grand arbre, ou au contraire un petit, ou être un grand arbre. Donc ils ont amené des images d'arbres, ils ont amené des noms d'arbres, et sur scène, ils font vraiment, et on voit des arbres.
Et justement, au niveau des corps, qui s'en est occupé, et qu'est-ce qui prend place?
Alors, le décor, c'est la lumière. En fait, donc comme c'est tout ce genre de spectacle, ça fonctionne que avec la force de travail. Donc tout le budget est passé dans les salaires. Donc il n'y a pas de budget pour les décors. Par contre, il y a un ingénieur lumière, il y a un ingénieur son et il y a une costumière. Donc le décor, alors après il y a des accessoires, disons. Donc je ne vais pas dévoiler ici parce qu'ils font partie de la surprise du spectacle, mais qui tournent autour de, le titre c'est Planteur de perles. Donc il y a tout un travail d'accessoires autour de l'idée de la sphère, de la perle, du ballon, de la boule, etc. Donc qui viennent et repartent dans ce spectacle sous différentes formes.
Très bien. Le propos des planteurs de perles, c'est la jalousie entre frères et sœurs. Est-ce que c'est possible de développer un petit peu?
L'idée, elle m'est venue en fait à la naissance de ma petite Lou. Et donc, ça a germé. Et voilà, ce livret a été écrit il y a 3 ans maintenant. Et effectivement, c'est Benjamin qui s'est fait une idée d'une petite sœur qui doit arriver, qui l'attend avec impatience. Et quand sa maman rentre de la maternité avec cette petite fille, qui est tellement à l'opposé de ce qu'il attendait, qu'il se persuade que ça n'est pas sa petite sœur et qu'il y a certainement eu une erreur à la maternité. Et donc, l'opéra, c'est il va partir en quête de sa véritable petite sœur.
En question de nature musicale, de type de musique, est-ce que Planteur de perles est associé à la polyphonie au sens de ces voix multiples qui se croisent, ou bien ce sont des chœurs plus classiques? Comment vous qualifieriez votre musique?
Le chœur, quand il s'exprime, est la plupart du temps à deux voix. Sur une écriture qui est souvent, qu'on pourrait qualifier de modale, sur des modes un peu particuliers. Il y a une gamme par ton qui est très très présente dans l'opéra. Quelques modes aussi d'inspiration plus musique traditionnelle française. Voilà, donc c'est un peu des croisements de ça, plus des parties qui sont de l'ordre de bruitage, et qui sont plus improvisés, où la musique est plus dessinée, pas du tout écrite sous forme de notes, parce que ça ne correspond pas.
Voilà, et les enfants recherchent dans les sonorités, ça c'est quelque chose qui leur a plu et qui me plaît aussi à moi d'explorer, c'est d'aller jouer sur toutes les palettes qu'on peut avoir, les palettes d'expression différentes qu'on peut avoir avec la voix, c'est-à-dire on peut aller dans des timbres très doux qui vont bien se mélanger aux autres, ou alors travailler avec des choses plus agressives qui vont, une fois étant juxtaposées, qui vont racler entre elles, ou des choses plus stridentes qui vont agresser les oreilles, parce qu'on veut agresser les oreilles des gens, parce que par exemple Benjamin se retrouve dans la rue et il se retrouve affolé par les bruits de cette rue, et donc il faut que voilà, les voix, ils vont illustrer les bruits de la rue. Donc, elles ne vont pas être douces ni caressantes. Voilà, donc on va explorer comme ça différentes palettes de l'expression vocale.
On sent beaucoup de plaisir quand vous en parlez dans cette de jubilation par rapport à cette matière sonore. Est-ce que les enfants, vous avez ressenti qu'ils étaient dans un mode ludique par rapport à ce qu'ils produisaient eux? Comment est-ce que vous avez réussi à obtenir d'eux, peut-être même toutes les deux, cette chose-là que vous recherchiez et qui semble, voilà, ce jeu par rapport au son. Et est-ce que vous avez vraiment réussi à aller là où vous aviez envie d'aller avec eux?
C'est un plaisir de la matière, un plaisir de la matière musicale. Et oui, je pense qu'il y a eu un bel échange là-dessus. Après, il y a aussi tout ce qu'on peut... C'est très difficile pour des enfants qui en sont qu'à quelques mois d'expérience dans le chant, de se retrouver solistes. Et donc parfois, cette matière-là, elle a tendance à disparaître et à laisser place à une fragilité qui est tout aussi belle aussi, et tout aussi touchante pour les gens qui écoutent. Mais il y a eu un réel plaisir de jeu, de rechercher ces sonorités-là qui leur paraissaient étranges au début, surtout avec les enfants de la Bustrine. Quand j'ai travaillé avec eux toute l'année dernière, enfin une partie de l'année dernière, sur une sensibilisation au répertoire contemporain, pas du tout sur l'opéra. Et donc, je leur ai amené, mon idée, c'était de leur faire découvrir justement plein de matériaux, de leur proposer plein de choses, de leur ouvrir les oreilles à ça. Et je crois qu'ils m'ont, pendant quelques temps, ils se sont vraiment demandé si j'étais pas un peu folle.
En tout cas, eux aussi, enfin, si vous avez le trac, on est à quelques semaines encore de la représentation, j'imagine qu'eux vont l'avoir beaucoup aussi. C'est pour la plupart une première expérience de scène?
Oui, c'est une première expérience de scène. En même temps, il y a souvent des gens qui sont passés aux répétitions, donc ils ont un peu l'habitude des gens extérieurs qui passent. Oui, je sais, je crois qu'en fait, ils ne se rendent pas compte pour le moment, c'est normal. Surtout pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, ils ne se rendent pas compte d'abord de combien ça passe vite en réalité et du choc qu'ils vont avoir à ce moment-là. Bon, en même temps, ils vont être protégés par la lumière parce que devant eux, il va y avoir le trou noir. Donc, je pense que la conscience viendra après, après l'avoir fini.
Moi, j'ai une petite anecdote à ça. Moi, j'ai été très touchée. Maintenant, je m'y suis un peu habituée, mais au départ, de sentir ces jeunes enfants qui, au fur et à mesure que j'écrivais la partition, s'appropriaient les choses de manière complètement naturelle et ils l'interprétaient, ils la défendaient sur scène comme ça. Donc j'ai été au départ vraiment très très touchée par ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait un peu comme eux, c'est-à-dire que ça me semblait naturel aussi. Et puis un jour, il y a une petite fille de la troupe qui m'a rappelé un peu à la réalité. En me disant, parce que je leur disais, mais quand même, alors, vous trouvez ça difficile? Et elle me regarde et elle me dit, non, c'est pas difficile. Mais quand même, tu sais, Marianne, que ce que t'écris, c'est quand même pas au clair de la lune.
En effet, ce n'est donc pas pour aller écouter Au clair de la lune qu'il faudra vous rendre à la Friche La Belle de Mai les 6 et 7 juin, mais donc bien ces Planteurs de Perles très contemporains à 20h, salle de la Cartonnerie.
Un caillou dans la chaussure, c'est terminé. Prochain rendez-vous le mercredi 25 juin à 13h30. Le dernier de l'année 2007-2008, qui sera consacré avec une rubrique spéciale livres de jeunesse et des lectures avant l'été. La rubrique cinéma avec Photokino au Festival international du documentaire à Marseille du 2 au 7 juillet. Et côté spectacle, peut-être irons-nous du côté du festival Festimum. Voilà. C'est terminé, un caillou dans la chaussure avec Florence Michel, Nathalie Guimard, Marie-Dominique Russis et à la technique, l'homme de l'ombre, Sébastien Gély. Merci à toutes et à tous.